Ok.
Oui, c'est bon.
Je pense que, qu'on peut commencer. Donc, cette septième saison du séminaire MAMUX. Donc, bienvenue au séminaire mathématiques, musique et relations avec d'autres disciplines. Je suis particulièrement content aujourd'hui qu'on a finalement une journée vraiment orientée composition avec des compositeurs qui sont aussi des personnes qui réfléchissent autour des liens mathématiques-musique avec l'informatique musicale. Donc, voilà, on va voir deux exposés. Un de Arturo Fuentes, sur la multiplicité en machine, composé avec l'ordinateur, et l'autre, Guillaume Carvalho, sur les représentations des mathématiques dans la musique. Donc, les deux sont des compositeurs, mais aussi musicologues, on peut dire,
oui.
Donc, avec une thèse, une formation avec la musicologie, une thèse à l'Université de Paris 8. Et voilà, donc là, vous avez un petit peu quelques repères bibliographiques pour vous orienter dans leur exposé d'aujourd'hui. Vous avez aussi un planning qui est en cours de définition, en fait, du séminaire MAMUX. Donc, une prochaine séance, le 10 novembre, on n'a pas encore fixé les sujets. Donc, si vous avez des propositions, si vous avez envie d'essayer d'organiser ou monter une session sur un aspect particulier du lien mathématique-musique, vous pouvez nous envoyer des propositions. Comme l'année dernière, le séminaire MAMUX accueille aussi une école des mathématiques pour musiciens et autres non-mathématiciens. C'est une école organisée, en fait, qui est, disons, animée par Yves André, un mathématicien de l'École normale supérieure. Et je vous invite à parcourir l'année dernière les plannings de l'école de l'année dernière, où vous avez aussi tous les documents en fait en ligne, les PDF des transcriptions de l'école. L'idée étant celle d'introduire les mathématiques modernes, les mathématiques les plus abstraites et les plus des pointes aujourd'hui, pour un public non mathématicien. Et donc l'année dernière, on a eu plusieurs séances sur le concept de topos de Grothendieck, par exemple, ou c'est la théorie des Galois, ou c'était la théorie des opérateurs de von Neumann, qui est liée à la logique linéaire de Jean-Yves Girard. Donc voilà, on a commencé à dessiner un paysage des liens mathématiques-musique qui est, disons, fort intéressant d'un point de vue de la recherche mathématique, ce qui s'est fait aujourd'hui des mathématiques, et qui peut stimuler l'imaginaire du compositeur, je pense que... On aura des occasions d'aborder la question de quelles sont les représentations des mathématiques qui peut être employées dans la musique par les deuxièmes exposés en particulier. On a une séance exceptionnelle qui n'était pas prévue, mais finalement on va voir le 15 décembre. C'est une séance commune entre les séminaires MAMUFI, donc mathématiques, musique et philosophie, qui se déroule chaque fois qu'il y a un séminaire MAMUX ici, il y a un séminaire MAMUFI à l'école normale les matins. Donc on a fait ça pour donner la possibilité à ceux qui viennent, par exemple, de l'étranger, de rester un week-end, passer un week-end à Paris, venir à l'école normale les matins et l'après-midi passer ici à l'IRCAM. Donc on aura une séance commune avec la participation d'un historien des mathématiques, Ralph Kromer, et un théoricien des théorie mathématique de la musique, qui est Guerino Mazzola. Et en fait, les deux ont développé des perspectives assez intéressantes sur les liens entre, disons, philosophie et théorie des catégories, donc mathématiques, en particulier dans les applications musicales. Ça, c'est la théorie de Guerino Mazzola. 12 décembre, une séance dédiée à mathématiques, musique et cognition avec Fred Lerdal. Et on a su récemment Ray Jackendorf qui sera aussi présent. C'est l'occasion pour avoir un regard critique, disons 25 ans après la publication de Generative Theory of Tonal Music. Donc on va essayer de débattre sur la portée de cette approche en analyse musicale et aussi des extensions de la théorie générative pour la musique atonale, pour d'autres types de répertoires qui ne sont pas ceux qui ont été décrits dans l'ouvrage de 83. Une séance à définir le 2 février, on n'a pas encore fixé. Notre séance de l'école mathématique pour musiciens et non mathématiciens le 15 mars. Et une séance le 5 avril qui va être dédiée à l'analyse musicale assistée par ordinateur. C'est une proposition de Chantal Bouton qui sera au sein de l'équipe représentation musicale, sera chercheur invité pour quelques mois. Et Christina Agnagnopoulou, Grèce. Et donc l'idée c'est de faire un workshop sur, à partir de quelques pièces qui vont être analysées avec l'ordinateur. Donc on aura, pour l'instant on est en train de recueillir des idées. Donc là aussi si vous avez un intérêt particulier pour une pièce en particulier qui vous voulez essayer, que vous voulez essayer d'analyser, c'est l'occasion pour proposer et donc on pourra avoir plusieurs méthodes computationnelles pour analyser des pièces. Donc voilà, ça c'est l'idée du workshop. Et on terminera le 12 mai 2007 avec la troisième et dernière séance de l'école mathématique animée par Yvan Drey. Voilà, donc ça c'est un peu le planning du séminaire. Je vous invite à parcourir la page web du séminaire MOMIX parce qu'on a essayé de mettre en ligne dans toutes les séances, donc dans toutes les années, jusqu'au présent, les PowerPoints, les présentations. Donc vous avez pas mal de matériel. Il y a aussi des vidéos, des séances comme les séances de l'école, des transcriptions. Donc aujourd'hui, on va également enregistrer, mettre en ligne les formats audio de la conférence, de la journée. Et donc, voilà, je laisse la parole à Arturo.
Alors, il faut prononcer bien.
Bon. Arturo Fuentes, qui va nous parler de la multiplicité homme-machine composée avec l'ordinateur. Merci.
Merci. Bonjour. La multiplicité, c'est un mot qu'on utilise, qu'on écoute, on utilise en tant que musicien, en tant que musicologue. Même dans les programmes de concert, nous écoutons, nous voyons toujours employer les mots multiplicité. Alors, il me semble que c'est à la mode. Il me semble que c'est pas encore trop réfléchi, les mots. C'est l'usage courant. Que quelquefois, cet usage dit beaucoup plus de choses. Et il fallait faire attention à cet usage parce que effectivement il y a des choses à réfléchir là-dedans. Je me pose la question par rapport à la composition, par rapport à la musique. Je le vois en tant que musicien. Nous avons une idée, quand nous parlons en musique, nous avons une idée de la multiplicité. Quelquefois, ce n'est pas nécessaire de la définir pour l'utiliser. C'est une chose qui fonctionne comme un opérateur pour les compositeurs, pour écouter une œuvre, pour analyser une œuvre. Tout simplement, on dit que une œuvre est multiple. Quelquefois, on fait la référence directe à la technicité, à la différentes techniques utilisées, spectrales, c'est peut-être une pièce électroacoustique où effectivement, là, on voit qu'il y a une utilisation, une conceptualisation plus directe de la multiplicité. Et aussi, nous avons l'essence de la multimédia. En fait, je ne sais pas exactement, j'ai cherché plus à trouver l'essence de ces mots, et je vois qu'au moment qu'on utilise les moyens numériques, l'informatique musicale dans ces cas, c'est déjà une média, c'est déjà une modélisation des différents processus compositionnels par rapport à l'image, par rapport au son, par rapport à l'instrumentiste. Alors là, c'est pas nécessaire de trouver des liens entre les arts, mais on voit qu'aujourd'hui, à l'état actuel de l'art, on pense déjà dans la multiplicité tout de suite quand on voit une pièce. On a une référence à quelque chose qui n'appartient pas à ces cadres de référence directs qu'on voit tout de suite sur scène. Et je trouve que c'est déjà une conceptualisation de ce qu'on comprend comme multiplicité. Alors, c'est plutôt ça, l'usage courant de la multiplicité. Et il y a, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est une idée très claire que je voudrais qu'on puisse prendre dans cette intervention, c'est l'idée que la multiplicité pour un compositeur signifie aussi un espace composable à l'intérieur de la pièce. C'est-à-dire, c'est pas seulement l'espace physique de la salle, c'est pas la multispatialisation de l'œuvre, il y a à l'intérieur de la pièce un espace multiple, c'est-à-dire un espace figuratif, un espace métaphorique, un espace opératoire, et tout ça, on les comprend en tant que musicien. Nous parlons comme ça, et même un espace de représentation mathématique dans la musique. Ça, c'est aussi un espace métaphorique, abstrait, qu'on peut faire l'aller-retour. On peut bien sûr faire les chemins de la représentation musicale, des mathématiques vers la musique, et bien sûr prendre la musique comme une base qui va véhiculer un sens abstrait de la mathématique. Alors, je pense que il y a plusieurs chemins, et cet espace cet espace composable de la pièce est un espace multiple. C'est une multiplicité. L'œuvre, nous la comprenons en tant que multiplicité. Alors, quelque chose qu'on va voir aussi, on va réfléchir un peu plus loin, c'est la singularité. On pense la multiplicité, mais quand nous sommes en train de regarder une œuvre, nous disons, voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais en effet, ce que nous sommes en train de voir, ce sont des singularités de l'œuvre. Alors je trouve qu'au niveau de la perception, quand nous sommes en face d'une œuvre, une peinture, un film, la musique, nous sommes en train de regarder les singularités qui conforment une multiplicité. Alors le sens de l'émergence morphologique de la singularité qui fait qu'on puisse comprendre une multiplicité. Nous ne voyons pas la multiplicité comme telle, c'est-à-dire ça c'est un sens analogue, c'est qu'on voit les tout, qu'on voit les... Ça ne nous dit rien dans ce sens, parler de multiplicité, même si on l'utilise, comme je dis. On a cette facilité pour utiliser les mots, mais je trouve qu'on est en train de regarder les singularités, l'émergence des singularités. C'est une autre notion à retenir aussi. Dans cette idée de la singularité, une représentation mathématique est aussi une singularité à l'intérieur de l'œuvre. C'est pas toute l'œuvre, c'est pas une idée musicale seule, c'est une singularité qui entre avec un groupe d'opérations à l'intérieur d'un processus compositionnel. Alors nous comprenons en tant que musicien, et je pense que pas simplement, je pense que c'est simple à voir qu'une stratégie mathématique, une procédure mathématique ne fait pas une sens multiple de l'œuvre. C'est ça plus des autres espaces et plus des autres opérations à l'intérieur de cet espace. Alors c'est ça les côtés opératoires de la représentation musicale, de la représentation mathématique en musique. Voilà, alors mon intervention sera divisée en trois parties et avec cette notion de base. Alors la première partie, c'est l'essence de la multiplicité, déjà en musique et en composition. Une deuxième partie, c'est penser l'ordinateur avec la multiplicité, l'ordinateur en tant qu'objet sonore, contenant des unités multiples, contenant cet ensemble des opérations. En fait, je trouve que c'est un objet sonore dans ce sens, dans une catégorie opératoire. C'est l'objet ordinateur, c'est un objet sonore aussi. Et une troisième partie qui concerne des questions de représentation des mathématiques dans un cadre de multiplicité musicale, ce que je viens de dire un peu. Et tout cela dans son univers de la composition électroacoustique. Je trouve que la fin de mon intervention sera bien suivie par Guilherme Carvalho, parce qu'il va accentuer cet aspect et parler beaucoup plus précisément de ce côté des représentations mathématiques en musique et toute la problématique que ça redonne à la musique. Bon, je vais lire quelque chose et après je vais essayer de discuter un peu pour ne pas trop tarder, écouter un peu de la musique aussi. Ça, c'est une troisième et une quatrième chose, c'est écouter la musique. Et quelquefois, on a l'impression que ça reste dans le domaine de la théorie. Je vous rappelle que moi, je suis compositeur avant tout et j'espère que ça va continuer comme ça parce que et maintenant, la composition, c'est une connaissance multiple. Ce n'est pas uniquement s'asseoir au piano en face de la partition. Et voilà. Je pense que pour moi, c'est une connaissance qui peut prendre tout un univers multiple, tout un espace multiple des autres domaines, sans tomber dans la dialectique, bien sûr, non, et non plus être éclectique partout. Et voilà. Alors, nous observons tout d'abord que la notion de multiplicité ici traitée n'est pas employée comme adjectif. Il y a un emploi courant de la multiplicité quand on dit, par exemple, une multiplicité de genres musicaux, une multiplicité de sons ou une multiplicité d'instruments. Cependant, nous cherchons un emploi du mot au sens fort, en tant que substantif. Deleuze attire notre attention sur le deuxième chapitre des données immédiates de Bergson, où l'on trouve que le nombre est une multiplicité. Ce qui ne veut pas dire du tout la même chose qu'une multiplicité de nombres, affirme Deleuze. Voilà les nombres en mathématiques, il les conçoit déjà Deleuze. C'est une conférence donnée à Paris 8 dans les années 70. Et il parle de multiplicité dans ce sens. Une unité qui rassemble une opération multiple. En ce qui concerne la musique électroacoustique, nous trouvons dans le concept d'objet sonore traité par Vajone, compositeur argentin, directeur de recherche à Paris 8, les mêmes sens forts attribués à la multiplicité par Deleuze. Vajone affirme, dans une analyse de l'espace composé, qu'une catégorie opératoire, celle d'objet sonore, s'est définie comme un multiple. Plus précisément, l'objet sonore constitue une unité multiple. Nous trouvons, pour ainsi dire, enveloppé dans l'objet sonore plusieurs opérations appliquées au son. Or, cette signification de l'objet sonore ne s'éloigne pas d'une autre qui lui est proche, celle de l'espace. Peu ce que je viens de dire avant. On ne peut pas penser l'essence de la multiplicité sans nous trouver tout de suite immergés dans un espace, soit des représentations, soit un espace physique, spatialisation du son. Et Vajone trouve cette idée d'espace composé lié directement à l'objet sonore. J'ai des bibliographies aussi, si vous voulez, à la fin, noter tout ça, comme vous voulez. Pardon. Nous considérons ainsi l'œuvre électroacoustique comme un espace sonore où émerge une multiplicité de spatialités. Car, on le sait bien, l'espace musical est quelque chose qui est à composer. Ce n'est pas donné, c'est quelque chose, l'espace musical, à l'intérieur de l'ordinateur, est quelque chose qui est à composer. En somme, une unité multiple serait une catégorie opératoire, c'est-à-dire une structure, un objet, une morphologie, une localité, ou bien une singularité qu'on utilise pour composer, contenant une pluralité spatiale. Les singularités sont, quant à elles, chemin et origine d'une multiplicité. Je vais citer Badiou dans ce sens. Nous soutiendrons qu'il n'y a pas d'autre ressource pour penser la singularité que de classer les différentes manières qu'a une singularité de n'être pas ontologiquement singulière. Effectivement, ce que je vous ai dit au début, au moment qu'on pense la singularité, nous ne pouvons pas la détacher de ce qui est à côté, de sa propre référentialité, de sa propre état des choses dans l'œuvre. J'ai cherché à trouver des singularités isolées, bien sûr. On ne peut pas penser en singularité dans ce sens. Qu'est-ce que c'est une singularité? Bon, c'est une émergence, un trait qualitatif de l'œuvre. C'est quelque chose qu'on peut regarder, on peut même s'y rappeler. Mais ça rentre à l'intérieur d'un espace composé. Alors, on ne peut pas penser la singularité, comme dit Badiou, que de penser les différentes manières de penser cette singularité. Dans le contexte de la musique électroacoustique, je voudrais qu'on regarde l'ordinateur comme une unité multiple, car c'est aussi son propre espace musical, quelque chose qui est à composer. C'est dans l'interaction avec l'ordinateur que les compositeurs composent un espace multiple et dynamique d'opérations compositionnelles. C'est pour cela que nous ne pourrions pas caractériser musicalement l'ordinateur en termes de ses résultats, comme si on regardait une abstraction mathématique, car il n'y a proprement parlé un espace musical dans l'ordinateur. Nous composons cet espace de représentation de la musique en accord avec notre usage de l'ordinateur et nos propres assumptions esthétiques. Nous composons, je pense que c'est important ici, et de comprendre l'usage de l'ordinateur. Nous trouvons dans cet entrant de se faire, nous trouvons dans un processus compositionnel cet espace musical qui n'existe pas. Nous sommes en train de construire cet espace musicalement. Alors, nous comprendrons mieux cette pluralité de l'espace à la suite d'Hérissé et sa critique sur le travail avec les premières synthèses réalisées dans les années 50 et 60. Hérissé affirmait qu'il fallait musicaliser l'ordinateur. Or, cette musicalisation ne concerne pas tout simplement la mécanisation des fonctions paramétriques du son ou leur représentation symbolique dans un milieu numérique, comme c'était le cas dans le début de l'informatique musicale. À ce qu'il me semble, il s'agit à nos jours de circonscrire de façon interactive une multiplicité d'espaces musicaux, aussi bien physiques qu'opératoires, perceptifs ou métaphoriques, à l'aide de l'ordinateur. Cela dit, nous allons comprendre la composition de l'œuvre électroacoustique en tant que multiplicité d'espaces composables. Voici notre point de départ pour comprendre la relation multiple qui garde l'homme avec la machine dans un projet de composition musicale. Je pense que c'est... On avait déjà... Alors, il n'y a pas une autre façon de trouver cet espace multiple de l'œuvre qu'en train de la faire. C'est une relation homme-machine, une idée interactive. C'est une cinquième notion, je ne sais pas, quatrième, cinquième notion, l'idée d'interaction et multiplicité. Nous ne trouvons pas une multiplicité neutre. Il y a toujours un sens d'interaction, toujours. On peut écouter peut-être un peu de musique. Alors, je vais vous présenter une pièce Object qui a été faite à l'IRCAM en 2003. C'est pour théorbe électronique en temps réel. C'est Caroline Delhume dans la théorbe. C'était dans les cursus de composition, l'espace de projection. Je ne sais pas si vous connaissez les théorbes, parce que c'est un ancêtre de la guitare. Alors, c'est un instrument des 14 cordes, semblable à la guitare, qui mesure entre 1,50 m et 2 m, presque 2 m. Alors je trouve qu'il y a une sonorité beaucoup plus multiple, si on peut dire. On va pas écouter toute la pièce, je pense qu'on va... Je vais commenter quelque chose, je préfère de le faire après. Thank you. C'est toujours les problèmes de penser la, quelque chose de théorique, au niveau théorique, et après parler de la musique, parce que quelquefois on dit qu'il n'y a pas de correspondance. Je ne sais pas si c'est nécessaire de trouver toujours des correspondances directes. Je pense que ce n'est pas comme ça. C'est en tout cas un autre espace de la pensée, même si c'est vrai que mon intention est de trouver une densité de l'œuvre, de travailler une densité de l'œuvre, une multiplicité. Alors, et vous avez écouté ici la pièce, il y a une reproduction du son de l'instrument par l'électronique. Je trouve que c'est déjà un autre espace qui est composé. C'est l'espace réel, on peut dire, du théorbe de l'instrument. Et il y a une réflexion et une reproduction de cet instrument dans la partie électroacoustique qui était en temps réel. Et il y a une fragmentation de l'instrument, un mélange compact avec l'électronique. Alors, bien sûr, il y a une problématique de la perception, parce que les gens me disaient que... Il ne s'écoutait pas l'instrument, mais il ne se rendait pas compte que l'instrument était en train de faire la moitié de la pièce. Alors les gens me disaient, mais on n'a rien écouté l'instrument. Je dis, si on enlève l'instrument, tu vas voir de quoi il s'agit. Mais c'est une manière de composer la pièce, c'est une interaction directe avec les sons, et c'est un choix. C'est un choix, on ne peut pas le faire, j'ai choisi de le faire. La spatialisation aide beaucoup à cette perception, à cet espace multiple de l'œuvre. Et bien sûr, parce que c'est la localisation du son qui va nous conduire à comprendre une multiplicité. Je vais continuer. Avec une procédure de type multiple dans la composition, nous allons marquer les différences et les non-linéarités dans les matériaux. Nous allons construire des échelles temporelles qui définissent plus une diversité qu'une homogénéité. C'est ça un peu que j'ai essayé de faire dans la pièce d'ailleurs. Concevoir les sons en tant qu'unités multiples serait, à l'instar de Vajone, une manière de faire des distinctions composables et par là d'articuler notre champ d'action au-delà de quelques dimensions entières. La note, par exemple, insérée dans son système de fonctions harmoniques, tonales ou sérielles, c'est un cas de cette dimensionnalité trop unitaire, contextualisée tout simplement par les systèmes harmoniques en question. Cependant, il faudrait faire attention sur ces points. Ici, je propose de dépasser l'opposition dialectique de l'un et du multiple. Nous sommes nécessairement amenés, pour utiliser les mots de Deleuze, à distinguer des types de multiplicité. C'est donc au compositeur de voir les rapports à divers niveaux entre l'un et le multiple. Alors, effectivement, quand j'ai dit qu'il faut penser la multiplicité, il ne faut pas laisser de côté le sens unitaire qui vient nous poser sur la table des compositions la question de la singularité. La composabilité d'espace dans la musique électroacoustique nous livre la possibilité de construire des rapports entre l'un et le multiple. Nous considérons ainsi diverses formes de spatialité convenables selon un processus de transformation du son. Dans un processus compositionnel, c'est au compositeur de remarquer les degrés de multiplicité, c'est-à-dire les rapports à divers niveaux touchant l'un et le multiple. Ce qui pense le compositeur, c'est pour être ça, en tout cas, c'est moins. Ce qui peut être perçu comme unitaire dans une échelle acquiert une spécificité multiple dans une autre. C'est un changement d'aspect. Cette non-linéarité ne concerne pas uniquement la représentation symbolique du son dans le numérique, qui est déjà une source graphique et alphanumérique émancipée de l'unité logique. En fait, nous avons plusieurs manières de représenter un son d'après nos besoins de transformation. C'est ça l'espace multiple de l'ordinateur. D'après nos besoins de transformation du son, nous, nous pouvons représenter un tel son. C'est aussi une question de composition. Nous prenons, en tant que compositeur, des décisions musicales ayant trait à une critique des relations, ou bien, pour être en accord avec ce qui vient d'être dit auparavant, définissant une critique d'espace. Alors, il faut faire la critique des relations, bien sûr, pour comprendre, pour pouvoir enchaîner l'un et le multiple. Qu'est-ce que c'est unitaire dans l'œuvre? Qu'est-ce que c'est multiple dans l'œuvre? Je pense que si on voit la partition, je ne suis pas sûr si on va se mettre d'accord sur ce point. C'est pour les compositeurs, peut-être c'est un sens unitaire beaucoup plus global, et pour une autre personne, serait une localité, une unité beaucoup plus fermée. Alors, effectivement, il faut, pour opérer, pour faire de la musique, il faut une critique d'espace. Cela signifie que les choix du compositeur par rapport à la conformation d'une unité multiple dans sa musique n'est ni arbitraire ni fondé en quelconque règle préétablie. Les compositeurs sont libres de concevoir divers rangs d'unités ou de multiplicités concernant ces morphologies. Il envisage une telle critique des relations en accord direct avec ses propres évaluations formelles du matériau. Un élément de la pièce, une morphologie qui semble contenir une grande densité, peut changer d'aspect multiple au contact avec d'autres éléments de la pièce. Les compositeurs sont contraints de trouver une adéquation de son matériau pour définir ainsi la palette de son œuvre qui va de l'un au multiple, en traversant justement une multiplicité intermédiaire d'espaces composables. De mon point de vue, une stratégie compositionnelle qui est capable d'interagir avec tous ces points intermédiaires ou jeux d'interprétation entre l'un et le multiple relève d'une liberté artistique et d'une conception musicale de la multiplicité. Pour assimiler la multiplicité à l'époque actuelle de la composition, nous pouvons paraphraser les mots de Feldman prononcés 20 ans auparavant. Pour la première fois dans l'histoire, les sons étaient multiples. Feldman disait, pour la première fois dans l'histoire, les sons étaient libres. Je pense qu'on a dépassé dans la pensée compositionnelle, la pensée musicale, la liberté du son, de la transformation du son. On est bien là-dedans. Maintenant, pour la première fois dans l'histoire, on peut dire, on voit les sons comme un multiple. Et on travaille avec cela. Il y avait un point ici que je voulais... Oui. Trouver une adéquation de son matériau pour définir ainsi la palette de son œuvre qui va de l'un au multiple. Il faut regarder les matériaux. C'est à la fin une question morphologique du matériau. C'est la masse, c'est la pâte qu'on a là, en face de nous. C'est qui va nous donner les mesures propres à l'œuvre pour trouver. C'est un relativisme à la fin. C'est une théorie relativiste de la composition, si l'on veut, par rapport à l'opératoire. Et on va trouver une adéquation de son matériau pour définir ainsi la palette de son œuvre qui va de l'un au multiple. Si on voit une partition et on voit la manière dans laquelle elle était faite, on peut trouver cette adéquation aussi si on devait établir une analyse de type multiplicité. Je vais vous montrer un peu la musique et je fais des commentaires après.
Thank you.
Je vais passer la dernière partie de la pièce parce qu'il y a une évolution du matériau et vous allez trouver les changements. Bien, alors ici, ce qui m'intéressait, c'est d'avoir un contrôle des unités multiples dans la pièce par la technique des micromontages. Et il y a une grosse partie de régularité de la pièce faite par synthèse granulaire. Et à l'intérieur de cette partie, de cet continent, on peut dire, trop unitaire, il y a des ruptures que j'ai fait écrites. C'est-à-dire, il y a plusieurs sons qui sont mis à la main, qui sont littéralement comme si on avait une partition temporelle. Je suis en train de mettre des objets, je suis en train de mettre des petits points granulaires. À la fin, c'est une multiplicité de l'œuvre. Et ce qui m'intéressait, c'était ça, c'est de trouver une unité multiple par rapport à une structure régulière de la pièce, par synthèse granulaire. Et à la fin, je voulais montrer la fin parce qu'il y a un sens de la multiplicité que je voulais développer dans cette pièce, que c'est un lissage de la singularité. Alors, quand il n'y a pas l'articulation, si on n'a pas une articulation, on commence à voir cette espèce d'harmonie, de texture dans l'œuvre. Et c'est une manière pas vraiment d'annuler la singularité, parce que ça il y a un autre aspect qui émerge, un autre aspect pour la perception qui émerge, que c'est l'effet des masses. C'est une multiplicité d'un autre type. C'est pas la première partie de la pièce, c'était la multiplicité articulée morphologique. La deuxième partie, c'était cette couche énorme qui fait aussi une plasticité de l'œuvre. Ce terme-là, je l'emploie dans ce sens, pas vraiment dans le sens pictural d'une plasticité ou de la masse qu'on peut utiliser pour la sculpture, mais c'est une plasticité. On peut voir cette couche multiple. Alors, on passe à... Je vais essayer d'aller un peu plus vite. La place qu'occupe l'ordinateur dans la composition musicale n'est plus celle d'un objet technique externe à une pratique et à une pensée musicale. À ce qu'il me semble, l'ordinateur nous sert pour unifier nos stratégies, car nous avons tendance à multiplier dissipativement les possibilités de transformation du son dans notre imaginaire. Nous pensons toujours que l'ordinateur va faire qu'on puisse unifier ces stratégies-là. Cependant, l'ordinateur nous sert aussi pour le contraire. Il démultiplie nos possibilités compositionnelles quand on découvre son espace composable transformationnel où l'on voit toutes les possibilités pour la représentation du son. Cela dit, il me semble que l'ordinateur s'est constitué en tant qu'interface d'intégration des opérations de composition. Ce qui leur confère sans exception un poids artistique, Bref, dans leur technicité, les outils informatiques véhiculent une pensée compositionnelle et projettent dans leur propre champ contextuel une manière de faire la musique. Ce n'est pas un espace neutre, ce n'est pas un objet n'importe quoi, technique, ce n'est pas une machine uniquement, c'est une manière de faire la musique. On l'utilise d'une manière d'après nos propres assumptions esthétiques. Je vais citer Serre après. L'idée principale à retenir ici est que l'ordinateur, aussi bien que les instruments traditionnels de musique, sont des objets développés techniquement grâce à qu'ils sont objectivés nos fonctions musicales tant intellectuelles que physiques. Serre fournit une clarification de cette idée. Je cite « Nous avons la faculté d'objectiver nos fonctions. Vous observez que la manche du marteau reproduit votre avant-bras et que la masse du marteau reproduit votre poing. Si vous regardez les objets que nous inventons, il s'agit souvent des fonctions appartenant à notre corps et qui ont été objectivées à l'extérieur. De la même manière, la feuille de papier qui est sous vos yeux vous sert de mémoire. Votre mémoire n'est plus seulement à l'intérieur de votre cerveau. Elle est aussi objectivée sur la feuille de papier. Nous savons donc fabriquer des objets qui sont simplement nos fonctions objectivées. » Je passe à la suivante parce que je pense que c'est une bonne continuation. Quant à l'ordinateur, nous dirions que son objectivation serait plutôt d'ordre cognitif. Je cite Serre encore une fois. Et un ordinateur, demande Serre, qu'est-ce d'autre qu'une fonction mnémonique plus une fonction opérationnelle plus une fonction de représentation, c'est-à-dire les fonctions que nous considérons comme des fonctions de connaissance? Ces fonctions cognitives sont simplement objectivées dans l'ordinateur. En fait, cette objectivation de notre cognition incarnée, embodied, comme l'utilise Vinograf, dans l'ordinateur, dévoile la multiplicité de nos formes de vie et de nos connaissances. C'est la vie, je cherche toujours à concevoir le travail de composition avec l'ordinateur comme une possibilité de démultiplier une connaissance. On a objectivé nos fonctions cognitives, on parle de connaissances. En fait, je conçois, à la suite de Calvino, d'Italo Calvino, dans les 5 propositions d'Italo Calvino, si vous savez l'opportunité de lire les 5 propositions, c'est légèreté, rapidité, exactitude, visibilité, multiplicité, ce sont des consistances, consistency, sont des propositions que Calvino aurait dû lire à la Charles Eliot Norton Poetry Lectures in Cambridge, aux États-Unis. Il est mort en 95, avant de donner les conférences. Et des 6 conférences, étaient écrites uniquement 5 conférences. La dernière, c'est la multiplicité. Je travaille sur ce sujet, j'ai fait ma thèse sur les 5 propositions d'Italo Calvino dans la musique. J'essaie d'analyser, et ce n'est pas vraiment une analyse littéraire ni littérale des propositions. J'essaie de découvrir, de chercher, de suivre les idées de Calvino dans un contexte musical et bien sûr avec toutes ces réverbérations qui font que je puisse vous parler de la multiplicité aujourd'hui. Alors, je vais passer une dernière partie, une dernière pièce, c'est Antecedente X. Voilà, très vite par rapport à cette pièce, les saxophones avaient un traitement en temps réel. Et il y a une problématique ici toujours quand on va traiter les temps réels parce que c'est un support qu'on ne peut pas reproduire. Ce sont des problèmes de la multiplicité par rapport à la musique, par rapport à la technologie, à l'informatique, qu'évidemment la puissance est énorme, mais quand on se demande, on se pose la question de faire la reproductibilité de la pièce avec toutes ses complexités, à ce moment-là, on trouve des problèmes. Alors, envoyer la pièce, il faut quelquefois aller dans les festivals, être là, présent, etc., mettre les patchs en fonction. Alors, il y a cette problème. Il y a aussi question de la multiplicité par rapport aux instruments qui sont ensemble. Ce qu'on pensait à électroacoustique et ensemble, c'est toujours un bon défi dans ce sens. Bon, je pense qu'on passe à la dernière partie, qui c'est l'aspect de la représentation musicale, pour déjà donner la parole à Guilherme. Alors, on peut supposer que l'ordinateur constitue, pour les compositeurs, les réceptacles de ces opérations compositionnelles. Dans ce sens, l'ordinateur serait ainsi, en quelque sorte, un objet sonore du fait qu'il accueille des opérations musicales, sonores et compositionnelles. Cependant, on ne peut pas avoir accès à un résultat qualitatif musical généré exclusivement par une procédure autonome de la machine. Tout au contraire, c'est dans la machine où se passent les opérations forgées par les compositeurs, opérations qui donneront suite à la lecture morphologique et qualitative du son. La perception s'érige comme le dernier palier compositionnel. Dans la composition assistée par ordinateur, cet aspect est plus qu'évident. Les critères qualitatifs d'une musique et les résultats d'une interaction avec la machine. Voilà un des principaux sujet de cette intervention par Vinograd. Je cite. La machine doit être conçue comme un mécanisme avec lequel nous interagissons et non comme une abstraction mathématique qui pourrait être complètement caractérisée en termes de ses résultats, affirme Vinograd. Les sons n'est pas conçu en dehors de l'ordinateur, mais s'il est par contre appréhendé musicalement en dehors de celui-ci. On va revenir, on va faire le tour à la question de Vinograd. La machine ne doit pas être conçue comme un mécanisme avec lequel nous interagissons et non comme une abstraction mathématique qui pourrait être complètement caractérisée en termes de ses résultats. Le point central ici est celui de comprendre la multiplicité et l'interaction qu'elle véhicule entre l'homme et la machine comme la possibilité de traduction des idées compositionnelles à travers l'ordinateur dans un langage numérique. Voilà une chose importante, la traductibilité. En effet, l'ordinateur est une interface sonore. L'ordinateur aurait ainsi une orientation dynamique en facilitant les passages d'informations abstraites artistiques au symbolique algorithmique et vice-versa. Symbolique algorithmique à une information abstraite artistique. Alors, c'est le sens d'une interface. Une représentation mathématique du son dans l'ordinateur pourrait bien être une procédure opératoire intégrée à un espace plus vaste, multiple d'opérations. Nous comprenons ainsi qu'à l'intérieur de cet espace composable, une telle représentation puisse devenir une multiplicité. Les nombres est une multiplicité. Nous nous rappelons du mot de Deleuze et sa citation de Bergson mentionnée tout au début de cette intervention. Cependant, cette représentation, on le sait, n'est pas à proprement parler de la musique. L'émergence morphologique et qualitative du son serait le résultat d'une interaction avec la machine. Alors la procédure opératoire qui s'intègre à un espace plus vaste d'interaction, c'est la représentation mathématique qui s'intègre à un espace plus vaste avec des autres opérations et... C'est comme ça que les nombres est une multiplicité. On comprend ça d'après ce qui a été dit par Deleuze. On voudrait bien s'approprier en musique de l'image des mathématiques qui émerge des considérations de Wittgenstein et qui pourrait coïncider avec un sens de la multiplicité ici exposée. À la suite de Bouveres, cette image de Wittgenstein est celle d'une interaction qui se poursuit indéfiniment, sans que les extensions effectuées puissent être considérées comme ayant été conquises sur un territoire encore inconnu, qui préexistait et pouvait déjà être décrit d'une façon quelconque. Je commente. En effet, une représentation mathématique ne va pas conquérir un territoire inconnu de la musique, qui pourrait préexister et qui pourrait être décrit d'une façon quelconque. Si cela était le cas, on supposerait donc qu'il aurait une réalité qui serve de support à une possibilité musicale que l'on ne connaît pas encore et dans laquelle on puisse se proposer de la chercher. Il n'y a pas de telle réalité là-dehors. Nous le savons bien. J'essaie d'enchaîner les idées et peut-être commenter plus tard. Or, ce qu'il me semble, il est fascinant de penser à une définition de la multiplicité d'après la conception mathématique de Wittgenstein citée par Bouveres. Cela nous fait penser, dans un contexte musical, à une sorte d'interaction qui reprend une problématique compositionnelle au niveau du processus, c'est-à-dire de ce qui est en train de se faire. Tout se passe dans l'interaction, dans la création qui se poursuit indéfiniment, comme a dit Bouveres par rapport à l'image des mathématiques de Wittgenstein. Pour conclure cette idée, on peut citer un paragraphe de Bouveres sur la détermination du sens en mathématiques. Celui-ci nous renvoie inévitablement à la détermination du sens en musique, qui serait certainement un sens multiple. Les mathématiques d'ailleurs. Je cite. J'avais fait une erreur. Alors, je vais citer Bouveres par rapport à cette détermination du sens de la musique, par détermination du sens de la mathématique, qui pourrait être bien compris dans un sens de détermination musicale, que c'est un sens multiple toujours. Je cite. Puisque les mathématiques opèrent elles-mêmes au niveau de la détermination du sens, on ne peut pas construire des théories à propos du sens des propositions mathématiques et pas non plus, bien entendu, à propos de ce dont elles parlent, puisqu'elles ne parlent pas de rien. J'enchaîne l'idée. D'après ce qui vient d'être dit, je serais prêt à affirmer, sous la perspective de l'interaction et de l'idée des mathématiques dévoilée par Bouveres en référence à Wittgenstein, que la musique, elle aussi, ne parle de rien. Cependant, une telle affirmation va accentuer notre idée du processus comme interaction, en nous apportant une possibilité de composer une multiplicité dans un espace sonore. la musique va opérer elle-même au niveau de la détermination du sens par les moyens des possibilités qualitatives du son, créant un monde, c'est-à-dire un contexte musical. On va créer un monde compositionnel, un monde musical. Je voudrais résumer cette idée avec une citation de Valéry. Tout dispositif poétique repose sur un fait mathématique enveloppé. Bon, je n'ai rien à dire par rapport à Valéry, c'est très joli. Et je pense qu'elle résume très bien l'idée qu'on est en train de voir ici. Comme on a dit plus haut, on va comprendre les processus de composition comme ce qui est en train de se faire. De là qu'on ne puisse pas parler de sa détermination du sens a priori. Les choses sont en train de se faire. Vinograph semble estimer, sur le même chemin, que l'interaction entre l'homme et la machine se définit aussi par des facteurs en émergence en train de se faire et non uniquement par un contenu déterminé par les matériaux informatiques. Vinograph, il est à Stanford, il est professeur de computer science à l'université de Stanford. C'est ainsi qu'il développe un sens de la conception-création, une idée qui semble rencontrer celle du jeu des langages de Wittgenstein. Je cite Wittgenstein. Cette diversité, cette multiplicité n'est rien de stable, ni donné une fois pour toutes, mais des nouveaux types de langages, des nouveaux jeux de langages naissent. J'espère que la multiplicité dans la musique ne soit pas, elle non plus, rien de stable, ni donné une fois pour toutes. Je voudrais bien écouter des nouveaux types de musique dans le futur. Voilà, je pense que avec cela, on peut fermer. J'espère que la dernière partie n'était pas trop floue, mais c'est important de voir cette sens de la détermination thématique et voir que c'est une analogie, en tout cas pour la pensée compositionnelle, pour un compositeur, pour un musicien. Et voilà, c'est un sujet qui par rapport à la théorie mathématique, par rapport à la théoricien, mathématicien, et par rapport à chercheur, musicologue et compositeur, et informatique en plus, c'est Vinograph qui écrit beaucoup de choses là-dedans, par rapport à l'ordinateur, à la science de l'informatique. Alors il y a une rencontre entre la philosophie, l'informatique, la technologie, et bien sûr c'est un sens épistémologique qu'on peut continuer à développer, et je pense qu'on est dans ces sens quand on parle de ces choses-là. Bon, vous voyez les commentaires, s'il vous plaît. Merci.
Si ça marche, oui. Donc on a un peu de temps pour discuter ensemble, si vous voulez, avant de prendre une petite pause et après passer à la deuxième intervention, parce qu'il y a des questions dans la salle. Des remarques, des réactions.
Sinon, vous m'écrivez un email. Et voilà.
Donc, bonjour monsieur, Emmanuel Gorge. Donc, j'ai soutenu récemment une thèse d'HDR sur l'altérité. Et donc, je suis intéressé par cette notion de singularité. Donc, j'ai vu que vous citiez monsieur Vagione qui aborde ce problème.
Oui.
Donc, je crois que vous êtes totalement dans l'actualité des questions actuelles en matière de recherche. Et je voulais vous féliciter pour la qualité des compositions que vous nous avez fait entendre.
Voilà. Merci. Merci. J'espère savoir aussi connaître votre thèse et voir les recherches, parce que c'est effectivement quelque chose d'actuel. Parler de ces choses-là est très difficile. On peut dire que c'est de la théorie pure, mais non, il a un sens pratique tout à fait. Merci.
D'autres éloges ou...
En fait, j'aimerais juste... Bonjour, je suis Guilherme Carvin. Je vais parler tout juste après. Oui. J'aimerais juste te demander d'approfondir deux ou trois petits points oui. qui sont apparus au long de ta conférence.
Oui.
Au tout début, tu parlais en fait d'une émergence de la multiplicité. Elle émerge du processus compositionnel en entier. En fait, c'est pas ce que tu as dit au début, mais c'est oui. ce que je comprends d'après ton exposé. La multiplicité, au moins du point de vue du compositeur, lors du travail, elle émerge évidemment de toutes les interactions qui composent, okay. qui font le processus compositionnel. Est-ce que tu pourrais parler un peu plus de ce que tu as dit sur la nécessité des représentations être opératoires? Tu parlais au début d'un groupe d'opérations à partir duquel se constitue cette multiplicité, et tu disais que les représentations mathématiques de la musique sont opératoires. Alors, ce qui n'est pas... Ce que j'aimerais que tu parles, c'est, selon toi, elles sont toujours opératoires ou c'est plutôt ce qu'elles devraient être? Et ensuite, tu as parlé de oui. représentation mathématique de la musique, c'est-à-dire représenter la musique avec un outillage mathématique. Et est-ce que tu considères que des représentations à l'intérieur de la musique elle-même, comme un peu ce que tu as montré, les transformations du son de l'instrument oui. ou la multiplicité de lignes et d'éléments, est-ce que celles-là aussi doivent être opératoires?
Oui, bon... Pour la première question, évidemment, il y a des opérations et des représentations. Pardon, il y a des représentations mathématiques qui sont opératoires, et les autres qui ne les sont pas. Ils sont, en tout cas, c'est ce que je trouve. Si on voit les travaux avec l'électroacoustique, il y a certainement des processus de transformation et de représentation du son dans l'FFT ou dans n'importe quelle autre forme de représentation du son. Même dans des étapes du granulaire qui sont en train de se développer pendant qu'on travaille, qui n'y sont considérées pas vraiment comme une opération. Cependant, je trouve que ces processus-là, insérés, même si on ne se sert pas de cette opération, de cette représentation, des représentations mathématiques, cette modélisation, on peut parler aussi de ça, pourrait être partie d'un système opératoire. Parce qu'on ne sait pas, si on n'était pas passé par ce côté-là, on ne sait pas si on serait arrivé à un autre endroit. Alors, dans ce sens, oui, tout est opératoire et pas nécessairement est rendu évident dans la pièce ou dans le processus compositionnel. Et par rapport à la deuxième question, je t'invite vraiment à l'approfondir parce que je sais que tu vas dans ce sens. Et effectivement, je trouve que c'est aussi les sens envers la musique et qui reprend ou qui va vers les mathématiques. Tu travailles dans un discours musical, comme tu l'as bien dit dans le résumé. Mais je préfère que tu les touches. Oui. Mais je les pense comme ça, en fait. C'est-à-dire, je ressens cette nécessité aussi de véhiculer tout par le discours musical. Soit la nature, soit un poème, soit n'importe quoi. Et c'est la dernière chose qu'il y a à la musique dans ce sens.
Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, j'avais une curiosité parce que tu as dit à un certain point, un peu en passant, c'est une théorie relativiste de la composition. Et oui. Alors ça me frappe un petit peu parce que tu fais plein de références à Wittgenstein oui. et tu aimerais quand même injecter l'image des mathématiques de Wittgenstein qui est, je pense,
oui, c'est...
Pas complètement relativiste.
Oui, tu as raison. Et je trouve que dans ce sens, c'est relativiste, mais c'est et par rapport à l'usage. C'est-à-dire que tu as plusieurs manières d'utiliser plusieurs points de référence. Tu as plusieurs cadres de référence et de tes opérations, de tes représentations musicales. Mais effectivement... On ne peut pas dire qu'il y a une bonne représentation qui soit seule, qui va... Même on le voit dans le cas de l'ordinateur, une représentation mathématique peut être multiple, peut être vue de plusieurs manières. Et dans ce sens, je trouve qu'effectivement, c'est par rapport à ce que tu veux faire, et plutôt par rapport au son que tu veux tirer, que tu veux travailler avec, tu fais la représentation. C'est un peu le processus... Inverse dans ce sens, et c'est pour moi c'est relatif à une question esthétique, Dans ce sens, oui, et c'est plus proche effectivement du dernier Wittgenstein, du jeu de langage, et théorie des aspects, etc. C'est un point très délicat, et il fallait un philosophe des professions vraiment pour puisse donner la direction. Bon, j'ai fait la philo, DA de philosophie, mais ça ne veut pas dire...
On pourra sans doute en revenir après,
oui.
Après l'exposé des Guillaume. Ok, je vous propose de prendre une petite pause. Donc, il y a une machine à café en bas, à niveau moins 2, donc 10 minutes. Et comme ça, vous pouvez boire un café. On s'installe pour la deuxième présentation.
Je laisse ici une bibliographie, si vous voulez. Merci, Moreno. Merci à tous. Merci.